25. Le temps que Hodges et Holly quittent le périphérique pour rejoindre l'I-47 Nord, la tempête de neige ne rigole plus. Foncer à sa rencontre rappelle à Hodges un film de science-fiction qu'il a vu avec Holly, le moment où l'USS Enterprise se met en hyperpropulsion, ou peu importe comment ils appellent ça. Les panneaux de limitation de vitesse lumineux signalent « alerte neige, 60 km/h » en clignotant, mais Hodges cale son compteur sur 95 et l'y maintiendra aussi longtemps que la météo le permettra. Peut-être 50 km, peut-être seulement 30. Quelques voitures le klaxonnent pour l'inciter à ralentir. Et doubler les poids lourds, dont chacun traîne un brouillard de neige dans son sillage, est un exercice de frayeur contrôlée. Au bout d'une petite demi-heure, Holly rompt le silence.
« Tu as pris tes pistolets, n'est-ce pas? C'est ça que tu as dans ton sac ?»«
Ouais. » Holly détache sa ceinture, ce qui le rend nerveux, et repêche le sac sur la banquette arrière.
« Ils sont chargés ?»«
Le Glock, oui. Tu devras charger le 38 toi-même. C'est le tien. »«
Je sais pas comment on fait. »
Un jour, Hodges lui avait proposé de venir avec lui au champ de tir, commencer le processus en vue de la qualifier pour le permis de port d'armes dissimulé, mais Holly avait refusé catégoriquement. Il n'a jamais renouvelé sa proposition, persuadé qu'elle n'aurait jamais besoin de porter une arme à feu, persuadé qu'il ne la mettrait jamais dans une telle situation. « Tu vas y arriver, c'est pas compliqué. » Elle examine le Victory, gardant les mains bien éloignées de la détente et le canon bien éloigné de son visage. Au bout de quelques secondes, elle parvient à faire tourner le barillet.
« Ok, les balles maintenant. »
Il y a deux boîtes de Winchester 38 SP, 130 grains, full metal jacket. Elle en ouvre une, regarde les ogives qui pointent, telles des mini-têtes d'obus, et grimace.
« Bouh !»«
Tu peux le faire. »
Il est en train de doubler un autre camion, leur Ford Expedition enveloppé dans un brouillard de neige. Il reste des bandes de chaussée dénudées sur la voie de circulation, mais la voie de gauche est couverte de neige et le poids lourd sur leur droite semble interminable.
« Si tu peux pas, c'est pas grave. »«
Si je peux charger ce truc ?»
dit-elle, l'air fâchée.
« Je vois très bien comment on fait. Un enfant saurait le faire. »
« Et des fois, ils le font, » pense Hodges.
« Ce que tu veux savoir, en fait, c'est si je peux lui tirer dessus. »
« On n'aura sans doute pas besoin d'en arriver là. Mais si c'était le cas, tu pourrais ?»«
Oui, »
répond Holly. Et elle charge les 6 chambres du Victory. Elle remet le cylindre du barillet en place avec précaution, les coins de la bouche baissés, les yeux plissés, comme si elle craignait que le revolver lui explose dans la main.
« Bon, où est le cran de sûreté ?»«
Il n'y en a pas, pas sur les revolvers. Le chien est abaissé, c'est tout ce dont tu as besoin. Range-le dans ton sac à main, les munitions aussi. »
Elle fait comme il dit, puis dépose son sac entre ses pieds.
« Et arrête de te mordre les lèvres, tu vas te faire saigner. »«
Je vais essayer. » Mais tout ça est très stressant, Bill.
Je sais.
Ils sont de retour sur la voie de droite. Les bornes kilométriques semblent défiler avec une atroce lenteur, et la douleur dans son flanc est une méduse brûlante aux longs tentacules qu'il sent s'accrocher partout à présent, et jusque dans sa gorge. Une fois, il y a 20 ans de ça, un voleur coincé dans un terrain vague lui avait tiré une balle dans la jambe. La douleur était similaire, mais elle avait fini par passer. Il ne pense pas que celle-ci passera un jour. Il se peut que les traitements la mettent en sourdine un moment, mais sans doute pas bien longtemps.
« Et si on trouve l'endroit mais qu'il n'y est pas, Bill? Tu y as pensé? Hein ?»«
Il y a pensé, oui. Et il n'a aucun plan B pour cette éventualité. »«
On s'inquiétera de ça en temps voulu. »
Son téléphone portable sonne. Il le prend dans la poche de son manteau et le tend à Holly, sans quitter la route des yeux.
Holly à l'appareil,
elle écoute, puis articule
« Miss Jolis Yeux Gris »
à l'adresse de Hodges.
Oui, ok, je comprends. Non, il ne peut pas, il a les mains prises, mais je transmettrai. »
Elle écoute encore, puis lâche.
« Je pourrais vous le dire, Izzy, mais vous ne me croiriez pas. »
Elle raccroche et lui remet le téléphone dans la poche.
« Des suicides ?» demande Hodges.
« 3 jusqu'à présent, en comptant le garçon qui s'est tué devant son père. »«
Des appites ?»«
En 2 endroits. Sur le troisième, les premiers intervenants n'ont pas eu le temps de regarder. Ils étaient occupés à essayer de sauver l'enfant, mais c'était trop tard. Il s'est pendu. On dirait qu'Izzy est en train de perdre les pédales. Elle voulait tout savoir.
S'il nous arrive quoi que ce soit, Jérôme racontera tout à Pete. Et Pete lui racontera. Je pense qu'elle est presque mûre pour écouter.
Nous devons arrêter Hartsfield avant qu'il en tue d'autres.
Il est sans doute déjà en train d'en tuer d'autres, se dit Hodges. C'est ce qu'on va faire.
Les kilomètres défilent. Hodges est contraint de réduire sa vitesse à 80 km/h, et quand il sent l'Expedition zigzaguer un peu dans le sillage d'un semi-remorque Walmart, il descend à 70. Il est 15 heures passées, et la lumière de cette journée neigeuse commence à décliner quand Holly parle à nouveau.
« Merci. »
Il tourne rapidement la tête vers elle, l'interrogeant du regard.
« Pour ne pas avoir eu à te supplier de t'accompagner. »
« Je fais seulement ce que ton psy conseillerait, » dit Hodges. « Je t'aide à tourner la page. »
« C'est une blague ? Je ne sais jamais quand tu plaisantes. Tu es extrêmement pince sans rire, Bill. »
« Non, c'est pas une blague. C'est notre affaire, Holly, et celle de personne d'autre. »
Un panneau vert se profile dans l'opacité blanche.
« N79, » dit Holly. « C'est notre sortie. »
« Dieu merci, » dit Hodges. « Je déteste la conduite sur autoroute, même quand il fait beau. »
26. Selon l'iPad de Holly, le garage Thurston se trouve à 25 km à l'est. L'Expedition adhère sans problème à la route enneigée, mais le vent est en train de forcir. La radio a annoncé qu'il atteindra force 8 aux alentours de 20 heures. Et avec les bourrasques qui balaient des nappes de neige sur la route, Hodges doit descendre à 25 km/h pour y voir quelque chose. Alors qu'il tourne au niveau de la grande enseigne au coquillage jaune, le téléphone de Holly se met à sonner.
« Réponds, » dit Hodges. « Je reviens tout de suite. »
Il descend de voiture, enfonçant bien fort son borsalino sur sa tête pour ne pas qu'il s'envole. Alors qu'il marche lourdement dans la neige jusqu'au bureau du garage, le vent, comme une mitrailleuse, fait claquer le col de son manteau contre son cou. Son abdomen tout entier palpite. Il a l'impression d'avoir avalé des charbons ardents. À part l'Expedition, dont le moteur tourne au ralenti, les pompes à essence et le parking adjacent sont déserts. Les déneigeurs sont partis pour une longue nuit de labeur, alors que la première grosse tempête de l'année commence à faire rage. L'espace d'une seconde surnaturelle, Hodges croit voir Biblial derrière le comptoir. Même pantalon vert Dickies, même popcorn de cheveux blancs explosant sous sa casquette John Deere.
« Qu'est-ce qui vous amène par une après-midi aussi épouvantable ?»
demande le vieux bonhomme.
Puis il scrute derrière Hodges.
« Où c'est déjà la nuit ?»«
Un peu des deux, »
répond Hodges. Il n'a pas le temps de faire la conversation. Là-bas en ville, des gamins sont peut-être en train de se jeter par la fenêtre ou d'avaler des cachets. Mais ça fait partie du boulot.
« Vous êtes Monsieur Thurston ?»«
En personne. Comme vous ne vous êtes pas arrêté aux pompes, j'ai presque cru que vous veniez me cambrioler. Mais vous paraissez un peu trop prospère pour ça. Vous êtes de la ville ?»«
En effet, » dit Hodges, « et légèrement pressé. »«
Les gens de la ville sont souvent pressés. »
Thurston pose le Field and Stream qu'il était en train de lire.
« Alors, c'est pourquoi ? Vous indiquez la route ? Mon gars, j'espère que c'est près d'ici, vu ce qui s'annonce. »«
Je crois qu'on n'est pas loin, oui. Un camp de chasse qui s'appelle Têtes et Peaux, ça vous dit quelque chose ?»
« Oui, oui, bien sûr, » dit Thurston.
« Le chalet des médecins, juste à côté du camp de l'ours, la cabane du grand Bob. Ces messieurs viennent faire le plein de leur Jaguar et de leur Porsche ici, soit en arrivant, soit en repartant. »
Il dit Porsche comme s'il parlait de l'endroit où les vieux s'assoient le soir pour regarder le soleil se coucher.
« Mais doit y avoir personne là-bas. La saison de la chasse se termine le 9 décembre, et c'est de tir à l'arc que je vous parle, là. Le tir à balle est fermé depuis le dernier jour de novembre. Et tous ces toubibs tirent au fusil. Des gros calibres. Je crois qu'ils aiment bien s'imaginer qu'ils sont en Afrique.
Personne s'est arrêté plus tôt dans la journée. Une vieille voiture avec pas mal de taches d'après.
Non.
Un jeune homme sort du garage en s'essuyant les mains sur un chiffon.
Si, grand-père. Je l'ai vue, moi. Une Chevrolet. J'étais dehors en train de causer avec Spider Willis quand elle est passée.
Il se tourne vers Hodges.
Si je l'ai remarqué, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose du côté où elle allait. Et c'était pas un gros husky comme celui que vous avez là.
Vous pouvez m'indiquer le chemin jusqu'au camp ?
Il n'y a pas plus simple, dit Thurston. Du moins par une belle journée. Vous continuez votre route sur à peu près...
Il se tourne vers le jeune homme.
D'après toi, Duane, 5 kilomètres ?
Plutôt 6, répond Duane.
Bon, coupons la poire en deux et disons 5,5. Vous allez guetter 2 poteaux rouges sur votre gauche. Ils sont hauts, 2 mètres environ. Mais le chasse-neige est déjà passé 2 fois là-bas. Donc ouvrez l'œil, parce qu'ils doivent plus être trop visibles. Vous allez devoir forcer le passage dans la neige du bas-côté, vous savez. Sauf si vous avez apporté une pelle.
Je pense que ce que je conduis fera l'affaire, dit Hodges.
Sûrement, ouais. Et sans dommage pour votre 4x4, puisque la neige n'a pas encore eu le temps de se tasser. Bref, au bout 1 kilomètre ou plus, la piste se divise en 2. D'un côté, vous avez le camp du Grand Bob, et de l'autre, Têtes et Peaux. Je me rappelle plus lequel mène où, mais il y avait des flèches dans le temps. Elles y sont toujours, dit Duane. Grand Bob, c'est sur la droite, et Têtes et Peaux sur la gauche. Je le sais, j'ai refait le toit en bardeau de Bob Rowan en octobre. Ça doit être une urgence, monsieur, pour vous faire sortir par un temps pareil.
Vous pensez que mon 4x4 passera sur cette piste ?
Bien sûr, dit Duane. Les arbres retiendront encore une bonne partie de la neige, et la piste est en descente jusqu'au lac. Le retour risque d'être un peu plus difficile.
Hodges sort son portefeuille de sa poche arrière. Seigneur, même ça, c'est douloureux. Et en extrait sa carte de police avec le tampon « retraité » dessus. Il y ajoute une de ses cartes de visite de Finder Keepers et les pose toutes les deux sur le comptoir. « Messieurs, pouvez-vous garder un secret ?» Les deux hommes hochent la tête, le regard brillant de curiosité. « Bon, j'ai une assignation à comparaître à remettre. Affaire civile, montant à 7 chiffres en jeu. L'homme que vous avez vu passer en Chevrolet badigeonné d'après est un médecin du nom de Babineau.
« Je le vois tous les ans en novembre, » dit le vieux Thurston. « Il a une sorte de morgue, voyez. Il vous regarde toujours de haut. » Mais il roule en BM.
Aujourd'hui, il roule avec ce qu'il peut, dit Hodges. Et si je ne lui remets pas ses papiers avant minuit, l'affaire est close, et une vieille dame qui ne possède déjà pas grand-chose peut dire au revoir à son jour de paye.
Faute professionnelle ? Demande Duane.
Je n'en dirai pas plus, mais je dois m'y rendre. Et vous vous en souviendrez, se dit Hodges, de ça et du nom de Babineau. Le vieux lui dit
« On a quelques motoneiges derrière. Je peux vous en prêter une, si vous voulez. Et l'Arctique 4 a un grand pare-brise. Certes, vous ne seriez pas au chaud, mais vous êtes sûr de pouvoir rentrer. »
Hodges est touché par la proposition, faite comme ça à un parfait inconnu, mais il secoue la tête. Les motoneiges sont des bêtes bruyantes. Et il a dans l'idée que l'homme actuellement en résidence à Têtes et Peaux, que ce soit Brady, Babineau ou un curieux mélange des deux, sait qu'il arrive. L'avantage de Hodges, c'est que sa proie ignore quand.
« Ma coéquipière et moi allons commencer par y aller, » dit-il. « On se souciera de revenir plus tard. »«
Discretos, c'est ça ?»
dit Duane en posant un doigt sur ses lèvres ourlées d'un sourire.
« C'est l'idée. Si on reste coincé, il y a quelqu'un que je pourrais appeler pour venir nous chercher. »«
Appelez-nous. »
Thurston lui tend une carte qu'il prend dans le petit présentoir en plastique à côté de la caisse.
Je vous enverrai Duane ou Spider Willis. Ce sera peut-être pas avant tard ce soir et ça vous coûtera $40, mais pour une affaire qui en vaut des millions, j'imagine que vous pouvez vous le permettre.
Les portables fonctionnent là-bas ?
5 bars, même par sale temps, répond Duane. Il y a une antenne relais sur la rive sud du lac.
C'est bon à savoir, merci. Merci à vous deux.
Il se retourne pour partir quand le vieux lui dit
« Votre chapeau fera pas l'affaire par un temps pareil. » « Tenez, prenez ça !»
Il lui tend un bonnet en laine tricoté, surmonté d'un gros pompon orange.
« Peux rien faire pour vos chaussures, par contre !»
Hodges le remercie, prend le bonnet, puis retire son borsalino et le pose sur le comptoir. Il a un mauvais pressentiment en faisant ça, et le sentiment que c'est exactement ce qu'il doit faire.
« En garantie, » dit-il.
Tous les deux lui sourient, le plus jeune avec un petit peu plus de dents.
« Ça fera l'affaire, » dit le vieux. « Mais vous êtes bien certain de vouloir aller jusqu'au lac, monsieur... »
Il baisse les yeux sur la carte de visite.
« Monsieur Hodges ?»« Vous m'avez l'air un chouïa patraque.
C'est la bronchite, dit Hodges. Chaque hiver, j'y ai droit. Merci, merci à vous deux. Et si à tout hasard le docteur Babineau venait à repasser par ici, je saurais le recevoir, croyez-moi, dit Thurston. Ce snobinard.
Hodges se dirige vers la porte quand surgit de nulle part une douleur comme il n'en a encore jamais ressenti le traverse du ventre à la mâchoire. C'est comme se faire transpercer par une flèche enflammée, et il chancelle.
« Vous êtes sûr que ça va ?»
demande le vieux Thurston en contournant le comptoir.
« Oui, ça va.
C'est loin d'aller.
Une crampe à la jambe, d'avoir conduit. Je repasserai pour mon chapeau.
Avec un peu de chance, se dit-il.